en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Jean-François Bach, l'un des grands noms français de l'immunologie. Jean-François Bach est membre de l'Académie nationale de médecine depuis 1990 et membre de l'Académie des sciences depuis 1985. Académie des sciences dont il a été élu 20 ans plus tard, en juin 2005, secrétaire perpétuel. Jean-François Bach, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel. 7 questions récurrentes posées donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leur motivation. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Jean-François Bach, le moment essentiel ?
Je crois que le moment essentiel a été celui où j'ai choisi en quelque sorte mon orientation de recherche. J'avais fait des études tout à fait classiques au lycée Louis le Grand, enfin classiques pas dans le sens littéraire, j'allais dire ordinaire, dans la voie que m'avait ouverte plutôt les sciences, les mathématiques, la physique et la biologie. Et puis, au-delà de ces études, bon, je me suis retrouvé, parce que j'étais bon élève, on peut le dire, je me suis retrouvé à Louis le Grand, en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, fait une maths sup, comme on dit. Et ça marchait bien, mais je ne me suis pas senti tout à fait heureux. Donc, j'ai fait un premier virage, qui était une première... Je crois que dans la vie, il y a beaucoup de moments où on fait des choix. On peut revenir en arrière quelques temps, pas très longtemps, puis après, c'est irréversible. Et donc, là, j'ai fait le choix d'abandonner ce sujet, ce domaine, je réussissais normalement, pour rentrer en médecine. Donc je suis rentré en médecine, commencer des études médicales.
Mais pour quelle raison
parce que ça ne me satisfaisait pas. Je trouvais ça un peu, c'était pour moi un peu aride peut-être, ou je ne sais pas. Alors que c'est un sujet, je me rends compte maintenant en voyant tous mes confrères, mathématiciens, physiciens, que ce sont des sujets extraordinaires. Mais je n'avais pas accroché. Et donc j'ai commencé la médecine. Et puis alors là, je refais des études, j'appellerais ordinaires. Parce que l'internat, etc. Et puis un jour, et c'était là l'événement, je pense, essentiel, j'ai rencontré un homme qui était mon patron à l'époque, qui est devenu après, d'ailleurs, président de l'Académie des sciences et membre de l'Académie française, qui était Jean Burger. Et Jean Burger m'a ouvert la possibilité de faire de la recherche médicale dans l'esprit qui était le sien à l'époque, qui était totalement novateur, pour ne pas dire visionnaire. Et cela m'est arrivé, je ne sais pas, à l'âge de 28, 29 ans, assez tôt, peut-être même avant, même 25, 26 ans. Et ça, c'était un élément déterminant parce que ça m'a fait rentrer dans ce qu'on peut appeler la recherche de la compréhension de la médecine des maladies, la recherche du progrès médical. Et ça a été une orientation que je n'ai plus jamais abandonnée par la suite et qui a été l'événement principal à cette époque de ma vie et qui, rétrospectivement, reste sans doute l'élément essentiel.
Est-ce qu'il est facile d'être en même temps un médecin et un chercheur ?
Oui et non. Oui, parce que certains le font. Nous avons, par exemple, à l'Académie des sciences, plusieurs membres de l'Académie qui sont de très grands médecins et qui font de la recherche très innovative. Donc, c'est possible. Cela dit, c'est extraordinairement difficile. C'est difficile. Alors, c'est difficile parce que quand on est, et surtout aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, où les médecins sont accaparés par des tâches, des horaires invraisemblables, trouver le temps pour faire de la recherche, et qui plus est de la bonne recherche, c'est très très difficile.
Alors vous êtes-vous le Steinbeck de l'immunologie, parce que les souris, c'est votre vie, les souris.
Oui, oui, mais il y a les hommes aussi quand
oui,
même. Il y a quand même les hommes. Disons, mon activité, c'est largement répartie entre l'expérimentation chez l'animal. Alors, quand l'expérimentation, c'est pas... À vrai dire, d'expérimentation de cette étude chez l'animal. Nous avons un modèle, par exemple, de souris qui développe un diabète exactement comme chez l'homme. Et donc, nous avons fait des études chez la souris qui nous ont conduit à faire des observations. Le terme de découverte est toujours à utiliser avec prudence, mais disons des observations que nous n'aurions pas pu faire chez l'homme. Et puis après, nous sommes allés chez l'homme pour mettre en application ces idées. Et toute ma vie a été un aller-retour incessant entre, j'allais dire, oui, votre image est bonne, entre la souris et l'homme.
Mais quelle perception vous avez de la souris ? Parce qu'on ne parle jamais de ça. Vous avez vécu avec les souris.
Oui,
pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une souris?
Une souris, c'est un individu. Je pense que ça serait une erreur de le considérer comme un objet. C'est un individu. Et nous prenons d'ailleurs des grandes précautions pour bien traiter la souris avec laquelle nous travaillons. Nous avons toute une charte, qui n'est pas seulement une charte légale, qui est une charte morale de bien traiter ces animaux. Et c'est vrai que ces animaux rendent à l'espèce humaine des services absolument gigantesques. Quand on a autour de soi un enfant atteint de leucémie ou d'autres maladies, c'est grâce aux travaux chez la souris qu'on peut traiter cet enfant. Donc c'est un aller-retour. Alors parfois c'est la même personne qui fait l'aller-retour comme c'est mon cas. Dans d'autres cas, c'est des personnes différentes, les uns travaillant complètement chez l'animal, d'autres complètement chez l'homme. Bon, là dans mon cas, j'ai fait les deux. Bon, et donc c'est... Je ne sais même plus, quand on me demande de faire une conférence, je ne sais même plus a priori si je vais parler de résultats obtenus chez la souris ou chez l'homme, parce que ça se mélange.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Jean-François Bach, sur votre domaine d'activité aujourd'hui, donc disons globalement la médecine, la recherche et les sciences en général?
Je pense que nous faisons des progrès considérables qui ne sont pas toujours complètement appréciés du public. Parce que, et c'est un peu la faute des chercheurs. Les chercheurs donnent un peu facilement, poussés par la presse, il faut le dire, dans le triomphalisme. On a découvert la cause du cancer, on va guérir telle ou telle maladie. Bon. Et souvent, les gens sont déçus, parce que ça prend de nombreuses années, puis parfois, ça n'arrive pas. D'un autre côté, le public ne se rend pas compte que la médecine a accumulé des victoires innombrables, qui se traduisent en grande partie, c'est la grande explication, de l'augmentation de la longévité. Si nous avons gagné 2 ou 3 mois d'espérance de vie par an depuis des décennies, c'est bien parce que la médecine a fait des progrès extraordinaires. Alors, il y a peut-être d'autres raisons liées à l'hygiène, mais globalement, c'est parce que beaucoup de maladies sont traitées ou prévenues. Prenons un exemple, l'hypertension artérielle, qui était la cause de très nombreux accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde, tout ce que vous voulez. Elle existe toujours, comme avant, mais on la traite de façon tellement efficace que je ne dirais pas que la maladie a disparu, parce qu'elle est toujours là, je le disais, mais on a gagné la bataille contre l'hypertension à peu de choses près. Et ceci, ça est vrai pour bien d'autres maladies. La goutte, bon, on parlait des gouttes de calcul rénaux, etc. autrefois, la goutte existe toujours, mais on la traite complètement. Donc il y a eu énormément de progrès, énormément de succès. Donc il faut trouver le juste milieu entre la prudence pour ne pas tomber dans le triomphalisme que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi réaliser, montrer tous les progrès que la médecine a apportés. Alors bien sûr, ça pose toute une série de questions. Ça augmente les dépenses de santé au point que ça devient difficilement supportable pour la société. Ça conduit à de très nombreuses personnes à vivre à un âge très élevé où le problème de la dépendance se pose avec plus d'acuité que jamais. Donc il faut que nous évoluions avec nos sociétés. Alors de façon générale, je dirais même une chose qui m'intéresse beaucoup à titre personnel, c'est l'évolution des maladies. Les maladies que nous avons, nous, dans notre génération, ne sont pas les mêmes que les maladies auxquelles étaient exposés nos aïeux, alors pas au-delà. Donc il y a une évolution, la société a tellement changé que les comportements ont changé, le mode de vie, que ce ne sont plus les mêmes maladies. Et moi, je m'intéresse particulièrement à ce sujet que parfois certains appellent du nom un peu barbare de médecine darwinienne. La médecine darwinienne, bon, l'évolution selon Darwin nous a fait, disons, évoluer avec le temps, changer avec le temps, pas sur des centaines, des milliers d'années, et puis maintenant, ou même plus. Et maintenant, tout d'un coup, en quelques décennies, ce que l'évolution nous a fait est soumis à des changements considérables de comportement. Et il est évident que l'organisme, l'individu, est modifié par cette nouvelle interaction entre les produits de l'évolution que nous sommes et la vie nouvelle que nous menons maintenant.
Vous parliez de prévention. Sur ce plan-là, comment réagissez-vous au fait qu'au nom du principe de précaution, le recours au vaccin soit aujourd'hui assez souvent remis en cause?
Alors, vous touchez un sujet sensible, pour moi en tout cas. Nous avons écrit, et je renvoie les personnes intéressées à une tribune, ou un article même, que nous avons écrit dans Le Monde, dans Le Monde Internet. Bon, maintenant, la façon moderne de faire les choses, moi, c'est pas
ici. Qui a fait beaucoup de bruit, c'est la raison pour laquelle je vous en parle.
C'est pas ici que j'ai inventé le mérite de l'Internet. Donc, nous avons également fait une tribune qui est déposée sur le site de l'Académie. Nous nous sommes insurgés contre la désinformation qui existe actuellement, qui a lieu sur les vaccins. Pour faire simple, mais c'est assez exemplaire des problèmes de société auxquels nous sommes confrontés. Pour faire simple, les vaccinations représentent un des plus grands progrès de la médecine, bon, c'est clair. c'est pas tout de le dire, il suffit de le regarder avec des statistiques qui sont extraordinaires. Les gens de ma génération ont connu ce qu'était la poliomyélite ou des maladies comme ça qui étaient épouvantables et qui ont disparu, complètement disparu. La diphtérie, qui n'était pas fréquente, mais quand les gens en étaient atteints, ils en mouraient très souvent. Et la liste est longue, sans parler des maladies moins graves, mais qui finissaient par avoir une morbidité, une mortalité importante. Donc ces vaccins ont supprimé beaucoup, pas tout, pas tout. Et puis, il y a toujours eu, quand je dis « et puis », en fait, il y a toujours eu une partie de la population qui était contre les vaccins.
L'idée d'effets secondaires, enfin, c'est toujours
même
ça,
pas, non, pas. C'était l'idée d'intervention. Ah, oui. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on modifie l'évolution naturelle de la vie, sans se rendre compte qu'ils la modifient tout le temps eux-mêmes. Mais donc, une intervention délibérée, la vaccination, évidemment, vous prenez quelqu'un qui est complètement sain, un enfant qui est en bonne santé, et vous faites une intervention médicale. Bon, pas très agressive, mais c'est quand même une intervention. Bon, il y a des gens qui sont contre cela, puis après, il y a le risque d'effets secondaires. Mais après, quand on regarde vraiment les choses en face, mais vraiment sérieusement, comme on le fait pour tout problème médical, les effets secondaires des vaccins ne sont pas ceux qui ont été décrits. Et du coup, de fil en aiguille, on est arrivé à une mauvaise compréhension, ce qui s'est traduit, et ça a été l'objet de ce qui s'est passé récemment, c'était le fait que, alors que la campagne de vaccination contre la grippe était destinée à vacciner, disons, 80% de la population, ou même, mettons, 50% au mieux, on en a vacciné 7%. Les gens ont refusé. Et s'il y avait une épidémie grave de grippe cet hiver, il y en a eu une épidémie qui n'est pas trop grave, heureusement, mais s'il y en avait une grave, le taux de couverture vaccinale étant très faible, il y aurait eu une catastrophe. Il y aurait eu, comme le jour de la canicule, au moment de la canicule, oui. Il y aurait eu des dizaines, des milliers de morts.
Oui, oui. Donc, à vous écoutant, on a l'impression que la vraie question, ça n'est pas de savoir s'il faut limiter l'emploi des vaccins, mais au contraire, de découvrir le nouveau vaccin pour lutter
contre
certaines maladies.
Voilà, c'est ce que je dis volontiers. Le problème des vaccins, dire, nous allons avoir une séance publique sur les vaccins au printemps, en collaboration avec l'Académie nationale de médecine, et je peux vous dire, le message, il est clair, le problème n'est pas celui des effets secondaires des vaccins, c'est l'absence de bons vaccins pour beaucoup de maladies.
C'est-à-dire que le paludisme, des maladies comme ça, c'est ça?
Absolument, mais il y en a beaucoup d'autres. Même le sida, le paludisme, puis il y a des maladies plus banales, les infections en streptocoque, en staphylocoque. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles il n'y a pas de vaccin.
Oui.
Et alors, on n'y pense pas.
Donc c'est ça le vrai problème, quoi.
Ah oui, ah oui.
Alors, vous avez évoqué donc, le danger qu'il y avait à surévaluer les succès de la médecine. Ceux qui vous ont entendu, j'ai eu ce privilège-là, il n'y a pas longtemps, à l'Académie des sciences, le 21 juin dernier, vous avez fait une communication sur l'erreur scientifique. Et nous avons été beaucoup à être étonnés par la virulence avec laquelle vous avez mis en cause les grandes revues scientifiques internationales dans leur façon, justement, de faire mousser la donne pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la science.
Alors ça, c'est un sujet difficile et qui nous concerne, nous, scientifiques, énormément, parce que, qui nous préoccupe. Pourquoi ? Parce que toute observation scientifique importante doit être publiée. Parce qu'il faut en faire profiter toute la communauté scientifique qui, elle-même, pourra en faire profiter toute l'humanité, c'est clair. Et puis, quand il s'agit de sciences fondamentales, l'application n'est pas là, mais la science fondamentale progresse par petits pas, et chacun fait son petit pas, et chacun apporte sa contribution. En temps, il y a des grands pas, on a un prix Nobel, etc. Mais dans l'ensemble, ce sont des petits pas, des petites contributions qui sont connues de la communauté par les publications. Tout ça est normal et compréhensible. Là où le bât blesse, c'est que le fait de publier dans une très bonne revue, ayant une grande renommée,
ils ont Nature Science,
devient un facteur de notoriété. Autrement dit, on est considéré par la communauté comme un bon chercheur si l'on a publié dans ces revues. Jusqu'à là, passe encore. On peut comprendre qu'un producteur de films tienne compte pour sa notoriété du nombre d'entrées dans les cinémas que son film a suscité. Bon, c'est valable pour tout. Bon, c'est un peu la même chose. Bon, alors, tout ça, ça va. Là où ça ne va plus, c'est que dans certains cas, disons, l'évaluation ou le choix des articles qui sont publiés dans ces grandes revues n'est pas seulement fondé sur la qualité scientifique. Et là, il y a des problèmes, il y a des thèmes de recherche qui sont importants, mais qui éventuellement n'intéressent pas les grandes revues qui veulent quand même voir se diffuser très largement, etc. Si on rajoute à ça que les experts qui participent au choix des articles sont très sensibles aux effets de mode, etc., donc on arrive à plusieurs effets que j'appellerais pervers. Le premier, c'est qu'il y a des articles qui n'arrivent pas à passer dans les bonnes revues alors qu'ils le méritent, indépendamment de leur qualité. Et le deuxième, c'est que ça devient vital, mais vital pour un chercheur de voir ses papiers publiés dans des très grandes revues.
D'où les tentations.
Bon, j'avais fait dans cette conférence un peu ordinaire, d'une certaine façon, parce que c'était une série d'observations, d'erreurs, et parfois de fraudes, l'un poussant vers l'autre, éventuellement. qui montraient des choses curieuses, mais qui relevaient très souvent, enfin, au moins pour le moment actuel. Ce n'était pas vrai il y a 50 ans, mais c'est devenu vrai aujourd'hui. Vous savez, il y a cette phrase qu'on entend aux États-Unis, « publish or perish ». Pour les chercheurs, s'ils ne publient pas, je ne dirais pas qu'ils meurent physiquement, mais ils meurent scientifiquement. Donc, nous sommes dans une situation de pression, et lorsqu'il y a beaucoup de pression, ben, ça laisse libre cours à des pratiques qui ne sont pas satisfaisantes.
Alors, il y a ces pratiques donc non satisfaisantes, et puis il y a aussi les erreurs. À ce sujet-là, vous êtes, je dirais, très réaliste. Au fond, vous dites, quand on est un chercheur, il ne faut pas avoir peur de se tromper.
Voilà ce que j'avais dit ce jour-là. J'avais dit, le problème n'est pas de se tromper, de faire des erreurs, mais de ne pas en démordre.
Persévérance.
Voilà, absolument. C'est ça un peu le problème. Moi, je suis très fier des erreurs que j'ai faites, parce que souvent, elles ont été une étape importante dans des choses positives. On peut se tromper, on le reconnaît, et on démarre sur autre chose. Bon, ça, c'est la démarche scientifique ordinaire. Le problème commence quand on ne sait pas s'arrêter. Mais cela étant dit, encore une fois, l'effet scientifique, vous savez, il progresse, je le disais tout à l'heure, par petites étapes. Et puis, il y a un moment où la connaissance devient assurée. Alors, il y a des domaines, et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas toujours. Parce que les gens disent toujours, les philosophes, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les philosophes, mais sur ce sujet, je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Ils ont l'idée qu'en science, tout est toujours remis en cause. Rien n'est acquis. C'est vrai pour certaines choses. Les théories scientifiques sont toujours susceptibles d'être remises en cause. Mais par contre, il y a des faits scientifiques qui sont absolument établis. Si je prends l'exemple de la biologie et de la médecine, que je connais mieux que d'autres, quand on a décrit la séquence des gènes qui caractérisent un individu, et bon, cette séquence, elle est exacte. Il n'y a pas de risque qu'il y ait des erreurs. On peut le montrer très simplement. Lorsque vous avez une maladie génétique qui est due à une mutation dans un gène, on démontre l'existence de la mutation. La maladie est constamment associée. La mutation donne constamment la maladie. Il n'y a pas d'erreur possible.
Là, on est dans le patrimoine. Là.
Oui, mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur possible. Donc, c'est un fait scientifique, car c'est de la science. Pour trouver le gène dont la mutation est responsable d'une maladie, c'est vraiment une prouesse scientifique remarquable. Et ça, c'est irréversible. Donc, il y a un peu les deux. Il y a des choses qui sont remises, qu'on pourra remettre en question, d'autres pas. Mais tout amalgamer et dire, oui, mais la science, tout sera mis en question. Non. Donc, il y a des erreurs totalement normales, d'autres qui ne le sont plus quand on insiste trop. Et il y a des faits qui sont définitifs. Et donc, c'est un peu, vous voyez, c'est un cas d'espèce.
C'est un cas d'espèce. Alors, vous citez d'ailleurs de grandes intelligences. Hein, Einstein qui disait, qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Et Junger, une erreur ne devient une faute lorsque on ne veut pas en démordre.
Hein. Voilà.
Alors, vous êtes donc, depuis 2005, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. L'Académie des sciences a organisé un très grand débat sur le climat récemment, qui a eu un écho très fort. Est-ce que vous souhaitez que l'Académie s'engage ainsi, publiquement, à débattre de grands thèmes, je pense à la bioéthique? Est-ce que ce qui s'est passé pour le climat va se renouveler ou pas?
Écoutez, je le souhaite. Je le souhaite vivement. Alors, ce débat nous a appris plusieurs choses. Il nous a appris tout d'abord que l'Académie des sciences avait un rôle à jouer dans ces grands débats et qu'elle était d'une quelque part attendue. Et d'ailleurs, lorsque survient un débat dans la société et que nous ne donnons pas notre avis, on entend souvent « mais qu'est-ce que dit l'Académie sur ce sujet ?»
Exactement.
Donc nous devons nous exprimer. Le problème, c'est de le faire de façon mesurée et sans tomber dans l'effet de mode ou dans l'effet de pensée unique qui est parfois présent dans certains milieux. Alors, ce que nous avons appris à l'occasion du climat, c'est que il y avait des opinions différentes au sein de l'Académie. Donc, on ne peut pas nécessairement avoir un consensus, surtout même au sein d'une compagnie comme la nôtre, où les gens se connaissent, s'estiment. Non.
C'était assez musclé, d'ailleurs.
C'était un peu musclé, mais dans le fond, très bien. Alors, les opinions étaient émises avec... Il y a des opinions différentes qui étaient soutenues par un nombre de différentes personnes. Il y a plutôt une majorité, une minorité, mais peu importe. Donc, l'idée qu'il n'y avait pas une opinion est importante.
Oui, mais ceci étant, vous dites peu importe. Pourtant, pour le grand public, ça paraît inconcevable que des grands savants, puisqu'ils vous voient ainsi, n'aient pas le même avis sur des questions scientifiques.
Alors ça
a beaucoup étonné les gens.
Oui,
ça.
Bien, il faut savoir que. Il faut admettre qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des faits scientifiques incontestables, qui sont irréversibles. Je prenais l'exemple d'une mutation pour une maladie. Bon, ça, tous les scientifiques du domaine seront d'accord. Personne ne va contester le gène dont la mutation est responsable de la mucoviscidose. Bon, personne ne trouvera pas un scientifique pour le contester. Par contre, sur le réchauffement climatique, il y avait des opinions un peu différentes. Alors, c'est compliqué parce qu'il y avait des... Bon, encore une fois, il y avait une majorité de personnes d'un côté, une minorité de l'autre.
Oui, oui.
Et chacun avait ses arguments. Et nous sommes arrivés à la conclusion que c'était pas souhaitable de donner un avis systématiquement uniforme. D'ailleurs, ça pose une question qui est intéressante. Est-ce que l'on doit voter Moi, personnellement, je ne suis pas très en faveur des votes sur des sujets de ce type.
Les grandes découvertes ne résultent pas de votes.
Non, si vous allez dans un service de médecine pour vous faire soigner, vous ne souhaitez pas que le traitement ou le diagnostic soit voté par le staff. Oui, vous préférez. C'est un peu pareil. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. D'un autre côté, et ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup, on peut en parler, je pense que l'obscurantisme ambiant fait qu'il est important que des instances scientifiques du type de l'Académie des sciences puissent donner leur avis de façon la plus claire possible. Parce que si on dit, si on finit par trop mélanger les choses, il y a plusieurs opinions, les gens n'y comprennent plus rien. Donc il faut quand même leur expliquer les choses, leur faire comprendre qu'il y a une certaine relativité dans certaines opinions, et puis leur expliquer clairement, et sans tomber dans l'impression que veulent, ou dans l'idée que veulent soutenir certains milieux. J'allais dire certaines sectes, c'était pas ça que je pensais, mais le mot est arrivé à la bouche, pour soutenir des opinions qui sont quand même, elles, non fondées sur le raisonnement scientifique.
On voit à quoi vous voulez en venir, et d'ailleurs on va y venir à travers la troisième question donc récurrente de notre série L'Essentiel. Votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Quelle est, Jean-François Bach, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos ?
Alors, écoutez, mon idée n'est pas originale, vous m'en excuserez. C'est la lutte contre l'irrationnel. Je pense que l'irrationnel fait partie...
On y revient,
parce que pour nous, c'est vital. Moi, je respecte totalement l'irrationnel pour certaines activités intellectuelles ou affectives. La religion, encore une fois, les relations personnelles entre les personnes, entre les gens, tout ça, c'est normal et ça ne peut pas être rationnel. Bon. Mais alors, il y a des domaines où je ne comprends plus. Les personnes accepteront de parler en termes rationnels de la façon dont fonctionne une automobile ou un avion. Il y a un accident d'avion, tout le monde cherche à comprendre ce qui s'est passé. On a eu malheureusement un exemple tragique il n'y a pas très longtemps. Par contre, pour la santé, la plupart des gens vous donnent leur avis.
Alors vous avez là-dessus d'ailleurs un cheval de bataille qui est l'homéopathie.
Alors voilà, oui, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, mais il y en a,
beaucoup d'autres. Quand on vous lit... On lit un paragraphe de vous sur l'homéopathie, mais on se dit, mais comment est-ce possible ? Parce que derrière ça, il y a des milliards d'euros qui sont...
Oui, mais il y a plus
et
que
ça.
Il y a plus que ça.
Il y a la crédulité, il y a quoi ?
Je pense que... Alors, on pourrait faire une analyse philosophique pour laquelle je ne suis pas préparé, donc je ne l'engagerai pas sur ce terrain. Est-ce qu'il y a peut-être une recherche de quelque chose d'autre que ce qui existait avant et qui pousse des gens à se lancer dans cet obscurantisme délibéré ou pas ? Je ne sais pas. Le fait est que, pour la santé, je parle de ce que je connais, mais on pourrait dire la même chose pour d'autres sujets. Les gens n'acceptent plus discuter de façon rationnelle.
Compris le principe de précaution.
Alors, le principe de précaution est un bon exemple. Et avec des choses curieuses, par exemple, si vous prenez un exemple qui n'a pas de rapport avec l'homéopathie, mais on pourrait dire la même chose sur l'homéopathie. Prenez le problème des risques des téléphones portables et des antennes relais. C'est très intéressant. Bon, il y a des études qui sont faites. Je ne vais pas rentrer dans le commentaire de ces études. Ces antennes, ces téléphones sont dangereux. C'est un sujet dont on peut discuter. Moi, mon opinion, c'est qu'il n'y a pas de données actuelles pour montrer que c'est dangereux. Mais la porte est ouverte. Il faut continuer à faire des études. Et puis, c'est en accumulant les études. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que les antennes relais, la distance où on est d'elles, émettent moins de rayonnement que les téléphones portables que vous avez contre votre oreille. Mais les antennes relais, ceux qui sont inquiets de cette affaire, vont vous dire « Oui, je préférais que ça soit mis sur le toit de mon voisin plutôt que le toit de ma maison. » Parce que c'est facile. C'est ce qu'on appelle la générosité avec le portefeuille des autres. C'est facile. Par contre, si on leur dit « Mais si vous êtes inquiet, vous rangez votre portable, vous ne servez plus de téléphone. »« Ah ben non, j'ai besoin de mon téléphone portable, je ne peux pas m'en séparer. » Donc vous voyez, alors, quand les gens sont repris par leur intérêt personnel, à ce moment-là, le raisonnement glisse et dérape. Alors, pourquoi, comment, ça c'est une vraie question qui me passionne, pourquoi les gens ont besoin de cet irrationnel ? Alors, pour l'homéopathie, c'est encore plus compliqué, c'est ce que je disais, vous avez sans doute lu, donc c'est quelques lignes que j'avais écrites là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse.
Qui sont définitives, hein, parce que vous y allez carrément.
Carrément. Hein. Oui, alors, ce que je peux dire, pour résumer, parce que ça peut intéresser l'éditeur. Moi, je dis simplement, lorsque un nouveau médicament est mis sur le marché, il est soumis à des études très nombreuses pour vérifier qu'il est actif et qu'il n'a pas d'effet secondaire. C'est parfois un sujet polémique, on en a entendu parler récemment, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et il n'est pas question, en tout cas, il n'est pas autorisé dans quelque pays que ce soit de sortir un médicament sans avoir ce dossier d'études montrant qu'il est efficace. Et pour ça, on demande à ce qu'il soit testé dans des systèmes d'essais, comme on dit, double aveugle, c'est-à-dire que le malade ne sait pas s'il reçoit le produit actif ou un produit placebo. Ça, c'est admis par tout le monde. Tous les scientifiques sont tous d'accord là-dessus. L'homéopathie a été soumise à ce genre de test. Tout ce qui a été publié montre que ça ne marche pas. quand on compare le produit homéopathique à un placebo, il n'y a pas de différence. C'est là où il y a une petite ouverture, peut-être qu'un jour, je ne peux pas le savoir, un jour il y aura un essai thérapeutique qui sortira, qui montre une différence. Pour l'instant, il n'y en a pas sûr. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'homéopathie ne fait rien plus que le placebo. Or, on sait que le placebo est très efficace. Vous avez un enfant qui a mal à la tête, vous lui donnez un comprimé d'aspirine, et en lui expliquant que ça va lui soulager ce mal de tête, éventuellement, dans les 30 secondes, il dit, ça va mieux. Bon, avant que le comprimé même soit rentré dans l'estomac, vous voyez. Bon, ça, on le sait bien, c'est un effet placebo. Et on le sait que nous sommes tous sensibles à ça, même dans les maladies comme les arthrites, des choses comme ça, c'est jusqu'à 20-30% de l'effet dû à ça. Mais alors, là où ça devient intéressant, et c'est ça qui m'amuse un peu, de certaine façon, enfin, c'est pas amusant, parce que c'est beaucoup de dépenses et beaucoup de gens qui pensent à ça, mais le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais c'est que si on disait au public que l'homéopathie fonctionne comme un placebo, ou si on leur donnait carrément un produit qui ne contient rien, ben, ça ne marcherait plus, parce qu'il n'y aurait plus d'effet placebo. Donc pour avoir un effet placebo, il faut leur faire, faut laisser mystère. Croire aux gens qu'ils prennent quelque chose. Et à ce moment-là, pourquoi pas donner l'homéopathie. Vous voyez, c'est un raisonnement un peu compliqué, mais qui explique que finalement, j'arrivais à la conclusion que, bien que ne croyant pas du tout à l'homéopathie, je ne suis pas du tout contre son utilisation. Mais alors, ce qui me frappe sur un plan personnel, je dirais intellectuel, comment des gens que je vois autour de moi, aussi brillants dans leurs autres activités, intelligents, cultivés, rentrent dans cette discussion en refusant de voir les faits scientifiques, mais en n'ayant donc une opinion quasi religieuse sur
ces... Ce qui veut dire qu'on a besoin d'un territoire qui échappe au rationnel.
C'est mon interprétation, je pense que alors, c'est la seule, mais ça n'empêche pas que ça a des effets dévastateurs sur beaucoup de choses. Bon, alors on parlait des vaccins tout à l'heure, mais on pourrait citer bien d'autres exemples.
Oui. Alors vous évoquez donc ce danger pour les scientifiques, cet obstacle pour les scientifiques. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre à travers aujourd'hui ce constat que nous sommes obligés de faire? Peut-être voyons-nous arriver la première génération depuis le siècle des Lumières qui ne croit pas au progrès automatique de génération en génération. Il n'y a pas quelque
alors,
chose qui est en train de se...
Peut-être, alors je pense, alors là je crois...
Est-ce que ce n'est pas pour alors, vous, scientifique, un vrai problème?
Il est possible que je vive dans une atmosphère privilégiée, mais dans une ambiance... Mais je pense que ça reste l'opinion d'une... Si ça existe, ça reste l'opinion d'une minorité, une toute petite minorité. Que les gens aient peur du progrès, que les gens aient peur du progrès, ça c'est une autre affaire. Mais que les gens nient le progrès, je crois que c'est... quelque chose qui concerne très peu de gens. J'en parlais récemment d'ailleurs, si je prends le progrès technologique autour de l'informatique. Nous avons un confrère qui est Gérard Berry qui a beaucoup réfléchi à ça, qui insiste avec beaucoup de verve d'ailleurs sur le fait que les nouvelles générations, y compris les tout petits, ont vécu dans l'informatique, tellement dans l'informatique, qu'ils ne se rendent même plus compte de ce qu'était la vie avant l'informatique. Alors là, bien sûr, ils ne voient plus le progrès apporté par l'informatique, parce qu'ils n'ont toujours connu que l'informatique. Quand vous dites à un enfant que le téléphone est un grand progrès, il n'imagine pas la vie sans le téléphone. C'est un peu pareil. Alors ça, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est de l'ignorance du progrès. Et dès qu'ils arrivent à un certain âge, ils n'ont plus cette ignorance. Non, je crois que c'est plutôt une inquiétude. Mais là, c'est comme pour le portable. C'est une inquiétude qui doit être pondérée par l'intérêt de l'individu, l'intérêt de chacun. Parce que quand il est intéressé au progrès... Oui. Il ne conteste plus. C'est quand il n'est pas directement intéressé qu'il commence à poser des questions.
Alors, autre problème pour un scientifique, c'est la façon dont nous évoluons dans notre perception du temps. Aujourd'hui, la société, de manière générale, vit de plus en plus dans l'immédiateté. Alors, ce n'est pas du tout la perception du temps que vous avez, vous, scientifique.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que ça vous pose de plus en plus de problèmes ou pas, ça?
Ça en pose pour la recherche scientifique, certainement. Parce que pour la recherche scientifique, c'est vrai que nous savons que, par exemple, la recherche fondamentale est très importante pour faire progresser la science, les connaissances, y compris la connaissance appliquée. La plupart des progrès de sciences appliquées dérivent de sciences fondamentales. Alors, la science fondamentale ne fonctionne pas dans l'immédiateté dont vous parliez. La science fondamentale fonctionne sur un temps relativement long. Si on prend l'exemple du dernier prix Nobel que nous avons eu, Jules Hoffmann, bien, les découvertes qu'il a faites ne sont pas très anciennes. Parfois, c'est plus ancien que ça, mais datent des années 90. Donc, il a fallu 20 ans, 15-20 ans pour que ça émerge. Donc, il est parti de recherches complètement fondamentales sur des mouches, drosophiles. Et puis, 10-15 ans après, on s'aperçoit que c'est extrêmement important pour l'homme. Donc, ça a pris 15 ans, ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres sujets où ça a pris 20 ou 25 ans. Mais en tout cas, il était hors de question d'envisager la moindre application dans les 10 années qui suivaient les premiers travaux.
Mais comment, vous, scientifique, vous pouvez vous préserver de cette tentation de l'immédiateté, au fond?
Je pense que, pour ce qui me concerne, moi, c'est simple, je crois que beaucoup de mes collègues font la même chose, c'est le respect de la connaissance fondamentale. C'est de se dire que, finalement, il faut savoir chercher à améliorer le fondamental, l'apprécier en tant que tel, en oubliant les applications, quitte à réagir immédiatement lorsque ces applications se présentent. Ce n'est pas du tout pour se désintéresser des applications. Donc, je pense qu'il faut... Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien citer, « Toute recherche non appliquée n'est pas pour autant fondamentale ». Mais c'est vrai, il y a du bon et du moins bon dans la recherche fondamentale, mais comme dans la recherche appliquée. Mais la bonne recherche fondamentale est absolument indispensable au progrès de la science. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien cela, disent vraiment, nous sommes, manque un peu d'argent. Les deux sont complémentaires. Il n'y a pas de. Ce serait stupide de favoriser l'un par rapport à l'autre. Il faut qu'il y ait une bonne recherche fondamentale. Et en France, on est bien placé pour cela. On a une bonne recherche fondamentale et nous devons nous en féliciter.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Jean-François Bach, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps? Vous avez le choix. Hein.
La plus grande hypocrisie de notre temps. Je pense qu'il y a, dans beaucoup de domaines, alors moi je peux vous répondre dans le domaine scientifique, parce que je ne veux pas essayer de m'aventurer dans d'autres domaines.
Vous avez le droit. Hein.
J'ai le droit, non, mais ce n'est pas ma tentation de l'immédiat. Je dirais que non, je pense qu'il y a, disons, d'une certaine façon, un politiquement correct en science comme il existe dans d'autres domaines.
Ah bon?
Oh, oui.
En science aussi?
Ah oh, oui. Mais dans les comportements et dans certaines notions. Alors, l'effet de mode dont je vous parlais est intéressant. Et d'ailleurs, c'est un point fort de la recherche française, parce que nous avons un système de recherche en France où les chercheurs donnent un poste à vie. Ce qui a certains inconvénients, dans certains cas, bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin, on peut se demander est-ce que, nécessairement, c'est une bonne chose d'avoir que tous les chercheurs soient chercheurs à vie. Mais ce n'est pas le sujet. Là, je prendrais le bon côté. Le bon côté, c'est que les chercheurs peuvent décider de travailler, en gros, sur le sujet qui les intéresse, quel qu'il soit, quelle que soit la mode. Or, la mode est une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire on fait quelque chose parce que c'est à la mode, alors sans se soucier toujours si on ne pourrait pas faire mieux dans un sujet un peu différent. Et il y a une certaine hypocrisie ambiante à soutenir, de façon exagérée, les sujets à la mode.
Par exemple, actuellement?
Bon, par exemple, je ne sais pas, actuellement, prendre un sujet qui m'intéresse, donc je prêche un peu contre ma chapelle. Mais par exemple, tout ce qui touche aux bactéries intestinales, qui est certainement très important, tout ce qui touche à ce genre de sujet va être immédiatement favorisé. Bon, par rapport à d'autres sujets, dans des domaines un peu plus abscons, auxquels j'en travaille moins. Et donc là, je crois qu'il faut reconnaître qu'il est important de ne pas être aveuglé par la mode ambiante. Alors je crois que nous, Européens, et nous, Français en particulier, je le disais tout à l'heure, c'est un de nos points forts. On est un peu plus protégés de cela que les Nord-Américains en particulier, chez lesquels l'effet de la mode est très fort. Mais bon, les Américains ont d'autres forces. C'est-à-dire que le jour où l'ensemble de la recherche américaine aborde un sujet, elle le fait de façon absolument tellement systématique.
Bulldozer.
Qu'on n'arrive plus à suivre, souvent. Et donc, ce qui veut donc dire, d'ailleurs, que la percée que nous pouvons faire dans beaucoup de domaines, c'est justement identifier les sujets dans lesquels le bulldozer américain ne s'est pas lancé. Et il y en a pas mal. Et puis, même dans les sujets où il s'est lancé, le système, on a encore des choses à dire. On a pu le montrer. Mais enfin, notre force n'est pas dans l'approche un peu systématique de passage en force.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Jean-François Bach, le plus d'espoir?
Alors, dans le domaine scientifique...
Il y a une part de jeu dans la question. Hein,
oui, non, non, non.
On pourra vous reprocher de ne pas avoir cité ceci ou cela, mais qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant?
Moi, je pense que dans le domaine scientifique et médical, je parlerai du domaine médical, là, dans le cas particulier, parce que c'est un bon exemple, c'est que je pense qu'on peut espérer à terme aboutir à une prévention de très, très, très nombreuses maladies. Parce que, vous voyez, la médecine, pour beaucoup de gens, c'est guérir des maladies établies, et puis, bon, avoir quelques actions préventives en déconseillant, je ne sais pas, l'alcool, le tabac, en faisant des études de recherche thématique d'hypertension artérielle, de diabète, bon, c'est une chose. Mais je pense qu'on a vraiment l'espoir qu'avec les techniques modernes de la génétique, de l'épidémiologie, de la médecine, des différentes disciplines de la recherche, on va pouvoir arriver à prévenir un nombre de plus en plus grand de maladies. Pour le cancer, par exemple, le problème du cancer actuellement, c'est pas tellement qu'il n'y a pas de traitement. Il y a des traitements efficaces. Mais dans un trop grand nombre de cas, on y arrive trop tard. Bon, je pense qu'on peut espérer avoir trouvé des méthodes pour identifier les problèmes beaucoup plus tôt. Alors, et tout ça, c'est un ensemble de technologies. C'est une démarche. Et là, on tombe dans une multidisciplinarité qui est intéressante, parce que c'est en mettant ensemble toutes ces différentes personnes qu'on arrivera à quelque chose.
Mais vous, vous demandez quand même là un renversement presque copernicien des comportements. Quand même là, c'est vraiment un bouleversement
oui,
des comportements.
Oui, mais alors là oui, ça va poser ça pose un problème. Oui. Parce que quelque part, les gens acceptent de se traiter une fois malade, n'acceptent pas bien de faire ce qu'il faut pour prévenir la maladie. Je vais prendre un exemple très simple, qui est également intéressant. Parce que prenez par exemple des maladies, je prends une maladie, l'hypertension, le diabète, le glaucome, une maladie des yeux. On sait que c'est fortement héréditaire. Autrement dit, si un sujet est atteint, son frère, sa sœur, a un risque très élevé, beaucoup plus élevé que le reste de la population d'atteindre la maladie. Ben, on devrait normalement dire, bon, vous êtes atteint de cette maladie, il faut étudier, regarder si votre frère ou votre sœur n'est pas malade. Parce que eux, s'ils sont pas, s'ils étaient très malades, vous le sauriez, mais peut-être qu'ils sont en train de commencer la maladie. Oui. Et on pourra agir à ce moment-là beaucoup plus. Les gens sont résistants. Même les médecins n'aiment pas faire ça.
Mais chacun a l'impression d'être protégé du ciel aussi.
Voilà, non, c'est un peu ça. Les gens se disent, ça n'arrive qu'aux autres. Non, voilà.
C'est ça.
Donc c'est un peu comme les accidents d'auto. C'est pareil. Et là, il y a quelque chose... Moi, j'y suis sensible. Je veux dire, quand on fait... quelques examens régulièrement pour voir, bon, vérifier tel nombre de paramètres. Ce n'est pas agréable de faire faire ces examens parce qu'on se dit, quand on a les résultats, on s'attend éventuellement à une mauvaise nouvelle.
Oui, oui.
Et la facilité de dire, moi, je ne vais pas y aller et puis on verra bien. Bon, ça, c'est terrible. Et là, on rejoint un certain type d'irrationnel que je peux comprendre parce que moi-même, j'ai participé.
Oui, oui.
J'essaie de lutter contre ça. Je me dis, bon, il y a 7-8 examens biologiques ou autres que nous devons faire régulièrement. Parce que s'il y a quelque chose d'anormal, on peut agir. Ce n'est pas agréable. Il y a un frein de l'esprit qui fait qu'on a des difficultés à se l'appliquer à soi-même et encore plus à l'appliquer aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui doit évoluer dans les esprits et qui le fait très, très difficilement.
Donc la pédagogie est essentielle.
La pédagogie est essentielle et la conviction. Parce que c'est plus que de la pédagogie. Il faut convaincre les gens. Et vous voyez, des campagnes de prévention dans les médias, et ça aboutit à des choses, à des progrès incontestables. Mais c'est très difficile, parce qu'on retombe dans cette lutte permanente entre le rationnel et l'irrationnel, et qui fait la beauté de ce que nous sommes, mais
en général.
La vie.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, Jean-François Bach, le plus grand échec de votre vie? Comment l'avez-vous surmonté? Ou avez-vous tenté de le surmonter? Alors, c'est une question très personnelle. Hein, donc, vous avez le droit d'utiliser un joker si vous voulez utiliser un joker.
Oh, les échecs, bon. Je dirais d'abord que j'ai souvent dit, les gens autour de moi vous diront qu'ils l'entendent dire, je pourrais écrire un livre entier sur mes échecs. Mais alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs. On parlait d'erreurs tout à l'heure. Et certaines ont tendu à l'échec. Bon.
Mais personnellement, ce que vous ressentez, vous, vraiment, là, sans faire un inventaire intellectuel, d'une façon plus personnelle, vous, ce que vous avez ressenti comme un... S'il en reste un, dans votre mémoire,
j'ai pas d'échec qui m'est... Bon, peut-être que c'est un peu la facilité de me dire que les échecs, bon, sont un peu incontournables. Je pense qu'il y a certains sujets que j'aurais aimé aborder, et peut-être qu'on n'ait pas pu aller au fond des choses. Je vais prendre... Alors, il y a des échecs qui sont... C'est vrai que ce qui me ferait très plaisir, par exemple, avant que je me retire complètement de mon métier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout, j'aimerais arriver à mettre dans la pratique médicale le produit de certaines de mes recherches. Bon. Je pense que nous sommes au bord de le faire. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je ne suis pas sûr d'y arriver parce que, très précisément, nous avons décrit un nouveau traitement pour le... chez la souris d'abord, on revient à la souris, d'abord chez la souris, puis chez l'homme, un nouveau traitement pour faire arrêter complètement la progression d'une forme de diabète chez l'enfant.
Et
bon, le premier article chez la souris remonte à 94, les essais cliniques chez l'homme ont commencé en 2000, on a eu des très beaux résultats et encore récemment. Je ne suis pas sûr que je verrai l'application de cela. Alors, ça sera un échec encore pire si ça n'arrive jamais, même si après que j'ai pu le voir. Mais j'ai peur de ne pas le voir parce que je vois des pesanteurs, des montagnes à remuer que nous essayons de remuer parce que, alors qu'il faut intervenir des tas de choses, qu'il faut intervenir la relation avec l'industrie pharmaceutique, la relation avec des collègues qui sont un peu timorés ou qui sont, bon, pour d'autres raisons, ne participent pas. Peut-être mes propres erreurs ou les erreurs que nous avons faites avec mes collaborateurs de ne pas être avancés suffisamment bien dans tel ou tel domaine. Et là, je sais très bien que si je ne vois pas l'arrivée, enfin, l'émergence de ce traitement, je considérerais ça comme une forme d'échec. Je pense que, par exemple, pour tous les scientifiques, ceux qui travaillent en recherche fondamentale, d'avoir apporté une contribution qui soit visible, palpable, quel que soit le domaine, que ce soit fondamental ou
appliqué,
d'avoir présenté, je pense quelque part, pour nous, c'est une forme d'échec. Alors c'est ambitieux de dire ça, parce que, ou immodeste, parce que ça veut dire que c'est très ambitieux de dire on veut avoir porté une contribution, je ne suis pas sûr qu'on puisse tous y prétendre. Mais en tout cas, le fait de ne pas y être arrivé est ressenti comme une forme d'échec.
Mais en vous écoutant, là, on a vraiment la perception mais épidermique, vous travaillez dans la pâte humaine, voilà. Vous n'êtes pas là sur un espèce d'Olympe de principe d'intelligence et de découverte. Vous êtes dans l'humanité la plus complexe.
Oui, c'est-à-dire qu'on est, je vous ai dit, moi j'ai un pied dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire que essayer de comprendre les phénomènes. Alors là, je suis vraiment dans la même situation que celle de mes collègues qui ne font que de la recherche fondamentale. Et puis, il y a l'application. Et l'application, l'innovation, en particulier en médecine, mais c'est vrai ailleurs. Là, on est exposé à toute la société. On sort du laboratoire, on arrive dans la société. Et là, on en subit toutes les pesanteurs, qui sont considérables. Alors, ça va quand même plutôt mieux qu'avant. Globalement, l'interaction avec la société est plutôt plus facile qu'elle ne l'était.
Un peu moins d'obscurantisme, quand même.
Oui, puis il y a un désir de réussir, quand même. Il y a quand même toute série d'instances qui souhaitent que les choses marchent. Mais il y a une telle complexité que... Et quand on n'arrive pas à contourner tous ces obstacles, on est frustré. Et donc on a un sentiment d'échec d'une certaine façon.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, quelle est Jean-François Bach, votre motivation essentielle dans la vie ?
Ben écoutez, moi j'ai deux motivations. L'une pourra surprendre, c'est pas très personnel, mais c'est un peu la fonction que j'occupe qu'il veut. C'est que moi j'essaye, c'est ce que j'essaye de faire ici, dans cette maison où nous sommes, à l'Institut, et à l'Institut en général, essayer de faire progresser les missions de l'Académie, plus particulièrement la défense de la science. Et ça, c'est une affaire qui n'est pas simple dans le contexte que je vous parlais. Je pense que nous pouvons avoir des contributions. Alors, quand j'ai la défense de la science, c'est la défense de la recherche et puis de la science. C'est deux choses différentes. La défense de la recherche, c'est améliorer les conditions de la recherche. Et puis, la science, c'est de défendre l'image de la science, puis faire prospérer les applications de la science et la connaissance fondamentale et en la valorisant. Parce qu'encore une fois, ça, c'est pour moi quelque chose de très, très important. On est nombreux à penser cela, on est nombreux à travailler ensemble. Mais de la fonction que j'occupe, je considère que c'est mon rôle principal et donc c'est une motivation très forte. Sur le plan scientifique, je dirais que ma motivation, c'est de faire aboutir quelques projets. Alors, je vous ai parlé d'un projet thérapeutique, j'ai d'autres projets. L'un qui touche un peu cette médecine darwinienne, c'est de comprendre comment les maladies évoluent avec le changement de notre société. Nous savons par exemple que les maladies allergiques et auto-immunes, comme le diabète, augmentent de fréquence. Pourquoi et comment peut-on faire pour l'empêcher, etc. Donc ça, c'est une motivation qui... quant au reste, je pense que mes aspirations sont celles de tout Français, c'est d'avoir une vie tranquille, agréable et socialement et familialement heureuse. C'est pas très original. Je n'ai pas d'autres sujets vraiment d'activité. Je regrette d'ailleurs. C'est un de mes regrets. D'ailleurs, vous parliez d'échecs tout à l'heure. C'est un de mes regrets. Je regrette de ne pas avoir poussé à fond des activités extra-professionnelles.
Ouais, mais c'est pas facile quand même.
Mais je regrette. J'ai énormément d'admiration pour certains de mes confrères qui sont de grands musiciens, qui jouent d'un instrument de façon merveilleuse ou de grands sportifs. Vous voyez, je dis souvent, j'aurais bien aimé gagner Paris-Roubaix, cycliste, vous voyez.
Du temps des pavés. Et vous parliez de votre démarche de chercheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec Edward Brunson, qui est un écologue assez connu, lorsqu'il dit « Le scientifique qui réussit est celui qui pense comme un poète lors des rares moments d'inspiration et travaille le reste du temps comme un comptable ». Vous ressentez cela, vous ?
J'accepte la première partie. La poésie, certainement. Moi, je suis très sensible à la beauté de la science et de la poésie qu'on peut lui associer. Ça, certainement, oui. Comptable, alors, je ne voudrais pas être désagréable avec les comptables, parce que c'est des gens très respectables, mais que je connais peu, mais j'imagine qu'ils sont très respectables. Donc, je pense que non. Je pense que c'est vrai que pour avoir une contribution scientifique, pour faire quelque chose d'important en science, il y a toute une partie d'ordre un peu matériel, pratique. Mais au sein même de la réalisation des expériences qui sont parfois un peu routinières, etc., je ne dirais pas que ça stimule la poésie chaque fois, mais il y a de la créativité, de la réflexion originale, alors qu'on ne demande pas la créativité ou la réflexion personnelle à un comptable. On demande surtout de faire des comptes exacts, donc écrits de façon pédagogique et rigoureuse. Donc je pense que je suivrai cette phrase que sur la première partie.
Oui, parce que non, je pensais aussi à ce que disait Flaubert. Vous savez, la création, c'est 80% de transpiration.
Ah oui.
Et 20% d'aspiration. Vous êtes d'accord sur le pourcentage ou pas? 20%?
Oui, d'abord, je dirais qu'on ne peut pas chiffrer le pourcentage. Non, mais je dirais que c'est vrai, c'est vrai.
Là, il y a quelque chose, réaction de scientifique.
Il y a quelque chose de vrai. On pourrait, si on veut citer des phrases comme ça, on pourrait dire aussi, la science, c'est un peu de savoir-faire, beaucoup de faire savoir et même de savoir faire faire. Non, mais des phrases comme ça, c'est exact. Ça correspond à la, au fait que c'est pas tout d'avoir des bonnes idées, il faut pouvoir les mettre en pratique. Et il y a des gens qui ont presque trop d'idées, parce qu'il faut faire la sélection entre les bonnes idées. En fait, la bonne idée, c'est pas seulement qu'elle soit bonne, c'est qu'elle soit réalisable et qu'on puisse la mener à bien. Et pour la mener à bien, il faut y passer beaucoup de temps, y investir beaucoup d'énergie. Et dans ce temps et cette énergie qu'on utilise pour tout cela, tout n'est pas absolument glorieux. Tout y passe, y construit... la gestion de problèmes humains qui sont intéressants par eux-mêmes mais qui ne sont pas de la science. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai. Alors, c'est transpiration, ça a un petit côté péjoratif. Je dirais simplement, il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées.
Alors, nous avons évoqué là toutes les difficultés qu'il y avait aujourd'hui pour être quelqu'un d'heureux dans l'univers scientifique. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aurait entendu tout cela, qui entendrait tout cela, qui aurait quand même envie de s'engager dans cette voie, mais qui serait hésitant? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour lui faire franchir le pas?
Vous touchez un problème difficile, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord, que la qualité de la formation et des jeunes qui arrivent dans le domaine de la recherche s'est accrue. Nous avons vraiment un niveau de... Par exemple, si on regarde les candidats dans les postes de chercheurs, leur niveau est remarquable. Donc il y a des gens de... Bon, d'un autre côté, nous voyons beaucoup de jeunes très remarquables qui auraient pu faire des chercheurs formidables, qui étaient d'ailleurs préparés à cela par les grandes écoles, se partir vers des carrières commerciales ou autres, qui quitte finalement le milieu scientifique ou avant même de l'avoir rejoint, je dirais. Donc il y a une sorte de fuite des cerveaux qui n'ont pas vraiment fui une recherche dans laquelle ils étaient arrivés et qui n'ont pas rejoint la recherche pour laquelle ils étaient faits. Une sorte de fuite de cerveau au second degré. Je pense personnellement que la recherche scientifique, pour des jeunes, c'est une façon d'exprimer une vocation qui est une vocation pour la connaissance, pour le raisonnement, pour toute une série de choses, qui va leur donner des satisfactions immenses. Faire une observation nouvelle, c'est encore mieux, c'est très importante, mais faire une observation nouvelle, c'est une joie extraordinaire.
La science a fait votre bonheur.
Ah oui, moi j'ai eu des moments plusieurs fois dans ma vie où j'étais heureux, intellectuellement stimulé de façon formidable, parce que nous avions l'impression d'avoir observé quelque chose de nouveau. Découvrir quelque chose de nouveau, c'est comme, vous voyez, quelqu'un qui découvre un nouveau continent. Je veux dire, c'est quelque chose de nouveau, et la découverte de la nouveauté, de quelque chose d'original, c'est quelque chose de passionnant. Alors maintenant, on ne peut pas y prétendre y arriver systématiquement, chacun n'y arrivera pas. Et puis ce ne sera pas forcément toujours des observations très importantes, mais découvrir une chose nouvelle, contribuer à quelque chose de nouveau, participer à un élan comme celui qui existe dans très nombreux domaines scientifiques, c'est quelque chose de formidablement intéressant, formidablement excitant. Alors c'est vrai qu'il y a toute une série de vicissitudes de la carrière scientifique, des salaires qui ne sont pas très élevés, bon, une condition des chercheurs qui ne s'est pas améliorée avec le temps comme elle aurait dû, parce qu'il y a quand même beaucoup dans la population d'aspiration à aider la recherche et de volonté de faire.
C'est quand même pas un apostolat, c'est quand même pas un sacerdoce.
Non, mais c'est vrai que les chercheurs ne sont pas reconnus socialement comme ils devraient l'être, ne serait-ce que pour les conditions matérielles qui leur sont offertes.
Alors que dire aux jeunes pour lui faire sauter le pas quand même?
Moi, je pense qu'il faut leur faire comprendre, leur montrer que les satisfactions d'un chercheur sont d'une nature très spéciale, très extraordinaire, qu'ils ne trouveront pas nécessairement dans d'autres métiers. Alors, s'ils sont avant tout attirés par des satisfactions matérielles, là, ce n'est pas en science qu'il faut avaler. Mais si ce n'est pas le cas, il y en a beaucoup de jeunes, et heureusement, pour lesquels ce n'est pas le cas, la science est une possibilité de s'offrir des satisfactions intellectuelles inégalées.
Ainsi s'achève cet essentiel dont l'invité était donc aujourd'hui Jean-François Bach, grand nom français de l'immunologie et qui est depuis juin 2005 secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Jean-François Bach, merci.
Merci.
J'espère que vous aurez suscité des vocations. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.